vous allez suivre est une rediffusion.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, la pandémie du Covid-19 nous l'a rappelé cruellement. La santé des humains, des animaux et des écosystèmes sont étroitement liées. Il est donc inquiétant de constater, avec le bilan annuel du Global Forest Watch, que le couvert forestier a encore massivement reculé. 24 millions d'hectares ont disparu, dont un tiers dans les forêts primaires tropicales humides, qui abritent pourtant une biodiversité incroyable. Les solutions sont connues pour concilier préservation et exploitation de la forêt. Nous vous emmènerons au Gabon, dans une concession forestière durable. Ces forêts jouent aussi un rôle essentiel dans la régulation du climat. Mais jusqu'à quand? Les chercheurs s'inquiètent, car au-delà de 32 degrés, elles stockent moins de carbone. S'adapter au dérèglement climatique, c'est l'objectif justement de la Grande Muraille Verte, ce couloir végétal de 8000 km du Sénégal à l'Éthiopie. Bienvenue dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Nous sommes dans le sud-est du Gabon, entre Lastoursville, Okandja et Franceville, dans la concession forestière d'aménagement durable de la CEB, la compagnie équatoriale des bois du groupe Precious Woods. 600 000 hectares de forêt gérés durablement. Alors nous allons voir comment ça marche avec vous, Alain Carsanti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur économiste spécialiste des forêts au CIRAD. Alors pourquoi est-ce que c'est important de gérer durablement une forêt pour un pays?
Bien, parce qu'une forêt, c'est une ressource renouvelable. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde, on le voit dans la transition énergétique mondiale et dans toutes les transitions, nous sommes dans une phase de l'humanité où nous allons de plus en plus compter sur des énergies renouvelables. Le pétrole va s'épuiser, le charbon va s'épuiser. La forêt est une ressource vivante. C'est quelque chose qui peut apporter à la fois de l'emploi, des services à des générations de personnes. Aujourd'hui, alors que les forêts sont aujourd'hui en train de se raréfier à l'échelle mondiale, le Gabon a une chance inestimable, c'est qu'il a une des plus belles forêts du monde. Elle est préservée et probablement ça sera un atout absolument formidable dans l'avenir du point de vue économique et du point de vue touristique et autres.
C'est vrai que le Gabon est un pays qui a un couvert forestier de 85%, c'est énorme, c'est à peu près 22 millions d'hectares de forêt. Alors vous disiez, la forêt apporte de nombreux services, c'est pour ça qu'il faut la préserver. Quel type de services?
Alors il y a des services globaux et des services locaux. Le premier service global que l'on connaît, c'est le fait d'être un réservoir de carbone. C'est également d'abriter une biodiversité qui est l'assurance vie de l'humanité. La forêt, ça permet d'avoir de l'évapotranspiration, des pluies, ce qui effectivement va permettre de ce point de vue d'assurer la sécurité du point de vue de l'approvisionnement en eau de la région, du pays. Et puis, ce sont toutes les ressources que les populations tirent de la forêt, des ressources de chasse, des ressources pharmaceutiques, parce qu'on se soigne avec les écorces, avec les produits forestiers non ligneux. Et puis, bien sûr, il y a le bois, il y a l'industrie du bois, des bois précieux. Et de ce point de vue, c'est une industrie qui a un potentiel énorme et probablement le Gabon pourrait en bénéficier encore beaucoup plus qu'aujourd'hui avec le progrès technique, avec l'organisation.
Alors ici, on est dans une concession certifiée, c'est le label FSC. Donc quand on est en Europe, par exemple, et qu'on achète un meuble ou des planches, il y a cet autocollant FSC. On va essayer d'expliquer à travers ce reportage tout ce qui se cache comme contrainte derrière. C'est un label très exigeant.
C'est un label effectivement très exigeant. Et ce qu'on peut regretter, c'est que malheureusement, les consommateurs qui achètent du bois FSC ne se rendent pas compte du niveau d'exigence effectivement qui est derrière et des efforts qui sont faits par les entreprises pour rester au niveau, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'avoir le label une fois, les entreprises sont auditées régulièrement de manière plus ou moins approfondie, mais de ce point de vue, c'est probablement le meilleur outil dont nous disposons aujourd'hui.
Alors toutes ces contraintes, j'imagine que Philippe Jean-Marc est le directeur de la concession ici, va nous l'expliquer, donc on va aller le rejoindre dans son bureau. Et voilà le bureau de Philippe Jean-Marc. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir. Donc vous êtes le directeur du site ici, de la concession. On le disait juste à l'instant avec Alain Carsanti, cette concession est certifiée. Ça implique beaucoup d'obligations.
Oui, donc la certification, c'est une garantie que nos activités sont gérées de manière durable. Gérées de manière durable, ça implique des engagements au niveau non seulement de la forêt, mais aussi principalement au niveau environnemental et social. Notre certification nous impose aussi de respecter une traçabilité parfaite sur notre matière, c'est-à-dire sur le bois qu'on produit, depuis son abattage en forêt jusqu'à l'arrivée chez le client.
Et donc si un client en Europe, par exemple, achète une planche avec l'autocollant FSC dessus et demande d'où, enfin, la traçabilité permet de savoir vraiment l'endroit de l'arbre.
Donc la planche fait partie d'un colis. Moi, à partir de ce colis, je sais dire depuis quel morceau d'arbre ce colis a été fabriqué. Et je suis capable de non seulement retrouver la souche en forêt, mais de savoir qui l'a abattu, qui l'a transporté avec le bulldozer et puis qui l'a transporté par camion pour arriver jusqu'à l'usine. Oui.
Alors justement, sur la façon de travailler, il y a des rotations, vous prenez qu'une certaine quantité d'arbres par hectare.
C'est plus compliqué que ça, donc on a un massif assez important, ça fait 600 000 hectares. C'est des milieux assez hétérogènes, donc il faut d'abord en prendre connaissance. Pour en prendre connaissance, on doit réaliser des inventaires. On va pouvoir identifier des grands types de forêts dans lesquels on va pouvoir définir les essences qu'on pourrait exploiter, la rotation, le diamètre, etc. Alors la rotation ici a été définie à 25 ans, c'est-à-dire qu'on ne repasse pas sur un endroit de coupe avant 25 ans pour laisser le temps à la forêt de se régénérer et aux arbres de grandir et de permettre de retrouver un volume équivalent au deuxième passage. Grosso modo, il y a environ 600 espèces d'arbres au Gabon et sur ces 600, on inventorie 35 espèces, et sur ces 35, actuellement, on exploite moins de 20. Pour le volet social extérieur, je vous invite à aller visiter la cellule qu'on appelle le bureau d'appui à l'environnement villageois et son responsable, M. Nsoka.
Bonjour.
Bonjour, madame.
Alors, c'est vous qui êtes responsable donc, de tous les programmes qui sont en lien avec l'appui des villageois. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez à gérer?
On a géré principalement le social extérieur, c'est-à-dire par rapport à notre gestion durable, on doit prendre en compte les communautés qui sont dans notre CEFAD et en périphérie de notre CEFAD.
Alors CEFAD, ça veut dire ?
Concession forestière sous aménagement durable. Nous avons des zones qu'on protège en faveur des populations villageoises. Et on appelle ça ici, chez nous, des céréales agricoles. Dans les céréales agricoles, on évite de gaspiller les cultures des populations, de gaspiller leurs points d'eau. Et par rapport à leurs pratiques de chasse aussi, on n'interdit pas la chasse, mais on les appuie en leur expliquant qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir des armes en règle pour pouvoir chasser.
Et dans la certification, il y a cette obligation de reverser une partie des bénéfices de l'entreprise pour le bien-être des villageois, justement. Alors, à quoi cet argent sert et quelle part représente-t-il ?
Depuis 2001, le cumul que l'exploitation a fourni en redevance, on est autour de 1,7 milliard de francs CFA.
Et à quoi sert cet argent?
Aujourd'hui, principalement, cet argent n'a servi qu'à construire des maisons, à construire des dispensaires, à construire des cases d'écoute.
Écoutez RFI?
Oui, oui.
Merci beaucoup.
Je vous remercie également.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Alain Carcenti, là, on vient d'entendre tous les critères pour cette certification FSC, donc qui définissent en fait ce que c'est qu'une gestion durable de la forêt. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont labellisées ?
Au niveau de l'Afrique centrale, on est à peu près entre 4,5 millions et 5 millions d'hectares. Il y a 6 ou 7 compagnies qui sont certifiées. Et effectivement, la CEB ici est une des compagnies qui a été une des premières à être certifiée. Et probablement qui est allé peut-être le plus loin dans le processus de certification. Et c'est vrai que ce sont des surfaces impressionnantes. Ici, 600 000 hectares, parfois 1 million d'hectares. Or, la différence avec un champ de palmiers à huile, par exemple, c'est que ça n'empêche pas les autres usages. L'exploitation forestière, dans la mesure où elle est bien organisée, elle est bien faite dans le respect des gens, dans le respect des lois, eh bien, on peut avoir une superposition, une coordination des usages sur un même territoire. Et on n'est pas obligé d'avoir une spécialisation et cette bataille pour savoir qui gagne, qui perd. Ce que gagnerait le paysan serait perdu par l'entreprise ou le contraire. Et donc là, c'est quelque chose de tout à fait intéressant.
Anne-Cécile, si vous le souhaitez, je vais vous montrer comment on organise le travail sur le terrain, à la cartographie, pour que vous puissiez visualiser l'importance de ce travail préparatoire. Finalement, le travail d'exploitation en lui-même est la dernière phase de notre activité. La plus grosse partie, c'est la planification et essentiellement les inventaires et la cartographie.
Quand on parle d'exploitation forestière, souvent on s'inquiète un petit peu des dommages causés par les routes. Comment est-ce que vous gérez ce problème ?
Effectivement, là, pour pouvoir exploiter la ressource des massifs forestiers, il faut créer des routes. Et donc, c'est une source de déboisement important. D'où l'intérêt de les planifier au mieux. Alors nous, ici à la CEB, nous avons défini trois types de routes. Nous avons les axes lourds qui nous permettent d'évacuer le bois depuis les sites de production jusqu'à nos unités industrielles et vers les voies d'évacuation, en l'occurrence le chemin de fer. Ensuite, nous avons un deuxième type de route qui sont les routes secondaires qu'on doit pouvoir utiliser en saison des pluies. Ces routes-là sont déjà limitées en largeur, mais elles ont toujours une bande latérale de chaque côté de la route qui doit être déboisée afin que le soleil puisse accéder à la plateforme routière et la sécher. Et enfin, nous avons un troisième type de route qui sont les routes de saison sèche. On ne déboise absolument pas, on se faufile en forêt pour laisser passer les camions. Et donc, ce sont des pistes qui font 5 mètres de large. Donc vous comprenez l'importance de planifier nos réseaux routiers parce qu'entre un axe lourd et une piste de saison sèche, on fait 5 fois moins de dégâts. D'où l'intérêt de planifier au mieux notre activité.
Butayo, ah, sara e kigaoge ere ere gulume o lwa bire ayo ni mwiriwe ayama.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes dans le sud-est du Gabon, au cœur de la concession forestière de la CEB, la Compagnie équatoriale des bois, qui est un exemple de gestion durable. Nous sommes entourés d'arbres magnifiques, la forêt est dense, humide, et nous sommes en compagnie du directeur du site, Philippe Jeanmar, et de Alain Kersanti, chercheur économiste au CIRAD. Philippe Jeanmar, là ça y est, on est arrivé sur un chantier, expliquez-nous où nous sommes.
Alors on est le long de la route administrative qui relie Lastourville à Okonja, dans la zone d'influence du village Boutzumba. Donc on va suivre la piste de débardage qui va être l'axe par lequel va sortir les bois qui ont été abattus.
Mais le chantier là pour l'instant est à l'arrêt parce qu'il n'a pas fait beau.
Vous voyez, on a du mal à marcher, donc si nous on a du mal à marcher, les engins qui sont beaucoup plus lourds que nous, qui pèsent 20 tonnes, ont aussi du mal à marcher. Et donc plutôt que de dégrader la forêt inutilement, on a arrêté le chantier pour préserver un minimum les pistes de débardage.
Alors justement, il y a un engin là devant nous, c'est quoi ?
C'est un bulldozer que nous utilisons pour l'exploitation.
Et alors on voit que finalement derrière l'engin qui est passé, bon, le sol est un petit peu tassé mais c'est pas dévasté.
Ça c'est l'intérêt d'organiser son exploitation. Donc nous avons deux types d'engins. Nous avons des engins à pneus qui ne sont là que pour circuler sur les débardages, donc qui sont en gros la colonne vertébrale de la poche dans laquelle nous exploitons. Et puis des chenillards qui sont des bulldozers qui sont équipés d'arches de débardage pour lever la bille et donc ne pas la traîner et ne pas l'enterrer. Donc on n'a pas de sillon derrière le bulle. Et cette machine, étant sur chenille, va effectuer un très faible compactage sur le sol. Donc la couche de sol fertile n'est pas touchée et la végétation, au moment de son passage, est couchée, mais revient assez vite. Et donc si on revient dans 6 mois, l'endroit où est passé le bulldozer est très peu visible et va se refermer assez vite.
Alain Kersanti, est-ce que c'est répandu ce type de préoccupation dans le monde forestier ?
Oui, ça se répand. Hein. La certification systématise automatiquement ce genre de choses. Mais alors après, bien sûr, ça suppose un certain niveau de capital.
Oui, c'est-à-dire que c'est un niveau d'exigence qui n'est pas possible pour les petits exploitants, finalement.
Au départ, beaucoup de promoteurs de la certification pensaient que les petits exploitants artisanaux, les forêts communautaires seraient certifiés. Et en fait, on s'aperçoit qu'il s'est passé l'inverse. Donc voilà, là, il y a un compromis à trouver entre le côté démocratisation de l'exploitation sociale, mais avec donc les problèmes que ça peut poser de sous-équipement et de manque de formation du personnel, donc dégâts écologiques, et le côté grandes entreprises internationales, multinationales, qui auront le capital, la formation. Mais bien évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes qu'on peut imaginer d'avoir des entreprises étrangères en terre d'Afrique. Voilà.
Donc là, on va quitter la forêt pour retourner sur ce que vous appelez la base vie, là où il y a tous vos salariés, où vous vivez vous-même, et où il y a les industries de transformation. On va aller voir les scieries. Vous avez deux scieries ?
Oui, tout à fait. Donc on a une scierie qui est principalement orientée vers l'okoumé. Donc l'okoumé est un bois tendre. Et une autre scierie dite de bois d'hiver. Donc ce sont toutes les autres essences qui sont plus denses, qui demandent d'autres techniques de sciage et donc un outil adapté.
Aujourd'hui, vous produisez quelle quantité de bois ?
Alors par an, en grumes, donc sous forme de tronc, on exploite autour de 180 000 m3. Et en scierie, nous produisons entre 3000 et 3500 m3 de planches par mois.
Ça y est, nous sommes revenus au campement. C'est impressionnant, cette mini-ville construite au milieu de la forêt équatoriale. Et comme vous l'entendez, nous sommes près de l'une des deux scieries qui coupent les troncs en planches. Juste à côté, il y a les séchoirs et des tonnes de planches découpées et empaquetées sur des palettes prêtes pour l'exportation. Alors cette scierie incarne la volonté du gouvernement gabonais qui a instauré une loi en 2010 qui interdit l'exportation des grumes, des troncs donc non transformés. Philippe Jean-Marc, que pensez-vous de cette loi ?
Il faut savoir que la loi, bien qu'elle ait été appliquée de manière radicale début 2010, cette loi a été formulée en 2001. En 2001, le nouveau code forestier a été rédigé et appliqué. Et dans ce code, il était prévu qu'à l'échéance 2011, les sociétés forestières exploitant la forêt gabonaise devaient transformer 75% de leur production dans le pays. Donc je pense que cette mesure a été brutale, mais elle a surtout été brutale parce que personne n'a respecté la règle du jeu. Et ceux qui l'avaient respecté sortaient de deux années de crise au niveau mondial.
La crise économique de 2008 qui a eu des conséquences pour la filière du bois parce qu'il y a eu moins de bois d'acheter.
Tout à fait. Le premier secteur touché dans cette crise économique, c'est le secteur du bâtiment. Et dans le bâtiment, même si on construit en béton, on a besoin d'énormément de bois. Et donc, nous avons été durement touchés. Et donc, à la sortie de 2009, beaucoup de sociétés auraient voulu se refaire une santé financière en exportant de l'agrume. Ils n'ont pas pu. Et finalement, les entreprises modèles, parce que CEB est une entreprise qui a joué le jeu depuis le début, mais nous ne sommes pas les seuls, nous sommes quelques sociétés au Gabon, ont subi les conséquences de l'ensemble de la filière qui était la plupart des mauvais élèves. C'était très difficile parce qu'on avait des bilans négatifs et donc les banques ont eu beaucoup de mal à nous suivre. On a dû financer sur des capitaux propres qu'on n'avait pas. Mais maintenant, nous sommes de nouveau en phase de succès, on va dire. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir faire un bilan de l'industrie à l'échelle nationale et peut-être réorienter cette industrie, parce qu'aujourd'hui, elle est probablement peu adaptée à la ressource disponible.
Alain Carsenti, à l'échelle du Gabon, est-ce qu'on a déjà des chiffres pour savoir si ça a créé ou non des emplois, si le bilan économique est positif ?
Alors, ce qui est clair, c'est que la production s'est effondrée. Le Gabon produisait couramment 3,5 millions de mètres cubes de bois en forêt. Aujourd'hui, il n'en produit sans doute pas plus de 2 millions, entre 1,8 million et 2 millions. Les chiffres sont difficiles à obtenir. Grand espoir, c'était les emplois. Et les chiffres que j'ai pu avoir venant du ministère montrent qu'il n'y a pas eu de création nette d'emplois. Alors, le bois a des débouchés. Simplement, il faut savoir que chaque pays n'est pas dans la même position par rapport à son avantage comparatif en termes de transformation industrielle du bois. Le Gabon est probablement, pour des raisons de coût de main-d'œuvre, pour des raisons de manque d'infrastructures et pour des raisons de formation de la main-d'œuvre, était probablement un des pays qui a le moins d'avantages, disons, à une transformation intégrale. L'idée que le Gabon soit un pays totalement industriel serait peut-être une idée à reconsidérer, c'est-à-dire que je pense qu'il peut y avoir tout à fait de la place pour une industrie performante, créatrice d'emplois et créatrice de valeur ajoutée, mais que c'est peut-être une bonne politique économique de laisser une soupape d'exportation des grumes. Transformer, c'est pas toujours faire de la valeur ajoutée. Si on transforme de manière peu efficace, on détruit de la valeur, et ça c'est bien dommage.
Alain Carsenti, on a quitté la scierie et son bruit pour venir se promener ici dans le jardin botanique. C'est un jardin botanique qui a été un sentier en fait, qui a été aménagé par la concession forestière. C'est un endroit finalement qui pourrait attirer des tonnes de touristes parce qu'on est vraiment au cœur de ce qu'on appelle la forêt équatoriale. C'est magnifique, on est vraiment entouré d'arbres gigantesques, des lianes extrêmement impressionnantes.
La forêt au fond, c'est à la fois un ensemble de ressources économiques. Le bois, les ressources génétiques, le bois énergie, les produits non ligneux. C'est également un ensemble de services qui sont des services, ces services sont des natures de biens publics, c'est la biodiversité, c'est le stockage du carbone. Bon. Aujourd'hui, il y a des marchés pour les ressources, il n'y a pas de marché pour les services. Demain, on ne sait pas très bien, mais ce qui est certain, c'est que les services que rend la forêt tropicale, notamment la forêt du Gabon, qui est une des plus belles du monde, vont devenir de plus en plus rares à l'échelle mondiale. Et donc, de ce point de vue, ce bien public, il faudra le préserver, le financer. Donc on ne sait pas très bien exactement est-ce qu'il y aura demain des marchés, des services écosystémiques ou pas. Par contre, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que de plus en plus d'initiatives vont se développer pour préserver ce qui est notamment la forêt du Gabon et comme d'autres forêts qui sont véritablement un bijou et qui rendent des services inestimables à l'ensemble de la planète et d'abord au peuple gabonais lui-même.
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI, les forêts tropicales nous rendent des services inestimables, comme le disait le chercheur Alain Carsenti durant notre reportage dans les forêts gabonaises. Mais jusqu'à quand ? Bonjour Maxime Rejou-Méchin.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRD spécialisé en écologie justement des forêts tropicales et avec une équipe internationale, vous venez de publier les résultats d'une recherche issue de 2 millions de mesures de diamètre d'arbres sur plusieurs décennies dans 24 pays en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Et vos conclusions sont inquiétantes hein, sur le rôle de puits de carbone que peuvent jouer les forêts tropicales à long terme. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler pourquoi et comment une forêt stocke du carbone ?
Alors, donc c'est assez simple, en fait. Hein, le principe de base, c'est que chaque plante fait de la photosynthèse au cours duquel, en fait, elle assimile du carbone de l'atmosphère et elle stocke ce carbone dans ses tissus. De sorte que si vous voyez un arbre, vous le coupez, vous le laissez sécher et vous le pesez, 50% du poids sera en moyenne du carbone. Donc en fait, à travers leur croissance, les arbres accumulent du carbone qui se stocke dans leur matière et donc jouent un rôle très important dans l'assimilation du carbone de l'atmosphère.
Alors aujourd'hui, quelle est l'ampleur des émissions de carbone qui sont stockées par les forêts tropicales ?
Alors, c'est des chiffres qui sont encore relativement incertains, mais il semblerait que donc à peu près 30% des émissions de carbone actuelles soient stockées dans la végétation. Il y en a une autre grande partie dans la mer, mais de à peu près 25%. Et parmi ces 30%, les forêts tropicales représentent 40% de ces stocks de carbone. Donc, le rôle des forêts tropicales dans le cycle du carbone elle est extrêmement important. Et donc, l'incertitude qu'on peut avoir sur la dynamique de ce carbone dans ces forêts-là joue un rôle très important dans les incertitudes liées à l'évolution du climat, notamment.
Et là où votre étude est inquiétante, hein, je le disais, c'est que s'il fait plus de 32 degrés par jour dans ces forêts, ça se complique.
Alors, En effet, alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a utilisé un grand nombre de parcelles pour essayer de regarder comment les forêts tropicales pourraient répondre à l'augmentation de la température. Alors ce qu'on a montré, c'est que globalement, déjà, le premier résultat important de cette étude, c'est de montrer que le premier déterminant de la variation de carbone dans les forêts, c'est la température. Et manque de chance, c'est justement cette température qui est actuellement en train d'augmenter. Alors, ce qu'on a montré, c'est qu'en moyenne, on tend à perdre à peu près 6% de stock de carbone tous les 1 degré d'augmentation de température, mais que cette augmentation, elle n'est pas régulière. Il y a un plateau, il y a une limite au-dessus desquelles la perte du carbone s'accélère. Et effectivement, ce plateau semblerait être à 32 degrés, valeur au-dessus de laquelle on perdrait jusqu'à 15% de carbone tous les 1 degré, ce qui devient énorme. Donc effectivement, cette température de 32 degrés, elle est assez inquiétante parce que c'est la température au-dessus de laquelle on peut avoir une perte très rapide du carbone pour peu d'augmentation de température.
Et si on ne réussit pas à limiter l'augmentation des températures moyennes mondiales à 2 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels, hein, et pour l'instant c'est assez mal parti, eh bien il fera plus de 32 degrés dans les trois quarts des forêts tropicales.
Alors effectivement, c'est d'autant plus vrai en Amazonie et en Asie du Sud-Est, où une grande partie des forêts tropicales vont passer ce seuil fatidique des 32 degrés. En Amazonie, on estime que 70% de la région va être sous des températures supérieures à 32 degrés, et ce qui fait que chaque degré d'augmentation dans ces zones-là peut avoir des conséquences catastrophiques en termes de stockage de carbone.
Et en plus, on voit que le dérèglement climatique s'accélère, donc les conséquences pourraient être encore plus graves que ce dont vous nous parlez.
Alors, je ne vais pas rentrer dans la méthodologie, mais effectivement, l'approche qu'on a adoptée est relativement optimiste, puisque, en fait, on prend en compte les relations qu'on observe actuellement dans les forêts tropicales, qui ont eu le temps de s'adapter à des changements de température, et les niveaux d'accélération actuels de l'augmentation de la température ne permettront peut-être pas aux forêts de s'adapter aussi bien qu'elles ont pu le faire actuellement. Donc, du coup, effectivement, on se retrouve actuellement avec une rapidité des changements de température qui sont peut-être trop importants pour que les forêts puissent s'adapter à cette augmentation de température rapide.
Mais donc, en fait, c'est un peu une boucle infernale.
Alors, c'est une boucle infernale dans le sens où, effectivement, si au bout d'un moment, les forêts stockent moins de carbone, ça veut dire que, du coup, il y aura plus de carbone dans l'atmosphère, et donc un effet de serre plus important, et donc une augmentation de la température, et donc, effectivement, on rentre dans le cercle vicieux d'une augmentation de plus en plus forte du stock de carbone dans l'atmosphère.
Et est-ce que cette augmentation du carbone dans l'atmosphère n'a pas aussi des effets positifs sur les forêts tropicales ?
Alors, c'est actuellement débattu, mais il semblerait que les forêts tropicales répondent favorablement à l'augmentation du carbone dans l'atmosphère en poussant plus vite, parce que les plantes ont besoin de carbone pour pousser, et donc plus de carbone les aide à pousser plus vite. Mais cette association positive tend à diminuer avec le temps, parce qu'on se retrouve avec tellement de carbone dans l'atmosphère que ça devient de moins en moins limitant pour les plantes, et donc il y a une saturation d'effet, donc on a beaucoup moins de réponses positives au carbone. Et puis l'augmentation de température aussi induit de plus en plus de feux, d'événements de sécheresse intense, comme on a pu observer en Amazonie et en Afrique, notamment dans les événements qu'on appelle El Niño. Et là, ils sont accompagnés évidemment d'une perte de carbone énorme à travers les feux. En brûlant la matière, le feu relâche tout le carbone qui est stocké dans la forêt, dans l'atmosphère.
Eh bien voilà, qui n'est pas très réjouissant, mais qui est quand même intéressant. Merci Maxime Réjouméchin.
Merci à vous.
C'est une forêt particulière entre terre et mer. Les mangroves, qui ne poussent que dans les latitudes tropicales, abritent une biodiversité incroyable. Et c'est peut-être pour nous inciter à les protéger que deux variétés de mangroves ont formé un paysage en forme de cœur dans la province nord de la Grande Terre, en Nouvelle-Calédonie. Médiatisé par Yann Arthus-Bertrand, le cœur de veau est aujourd'hui menacé par la montée du niveau de la mer et par le plus grand projet minier du monde. Jacques Loquet, président de l'association Patrimoine et Histoire de Veau et du comité environnemental de Koniambo, s'occupe de sa préservation. Bonjour Jacques Loquet.
Bonjour.
Alors vous nous accueillez ici sur vos terres ?
Ben, vous faites au cœur du territoire. Vous êtes à vous et nous allons découvrir cette merveille naturelle qui se situe dans la mangrove, dans notre mangrove.
Quand vous dites notre mangrove, ça veut dire quoi ?
Ben, en fait, nous sommes particulièrement la population, mais aussi les environnementaux porteurs de la démarche de protection de l'environnement. Et la mangrove, ben, je ne sais pas qu'elle nous appartient, mais nous avons le devoir de la protéger, et ce, pour l'avenir de nos enfants, des générations futures.
Là, nous sommes dans la province Nord, à combien de kilomètres à peu près de Nouméa ?
Nous sommes à 300 km de Nouméa, bien en province Nord, sur la côte ouest, et juste au pied du massif du Cognambo. On va aller faire un tour dans la mangrove, sur Gato Pombal, hein, au bord de mer. Ça nous permettra justement d'aborder le sujet en plein milieu du sujet, en plein milieu de la mangrove.
Eh bien, on y va. Waouh, c'est super ambiance dans votre voiture.
Eh bien oui, il faut ce qu'on appelle développer la dynamique et positiver.
Là, on est arrivé au cœur de veau.
On est arrivé là aux abords du cœur de veau. Vous allez pouvoir découvrir sa mangrove, particulièrement les deux palétuviers qui font sa composition, la vicenia à l'intérieur et le rhizophora à l'extérieur.
On va voir, on ne va pas rester en voiture quand même.
Ah ben oui, tout à fait. On va se mettre en un lieu ici, là, de façon à avoir soleil derrière, de façon à être en bout dans la mangrove. Quoi.
Beaucoup de vent là. Hein.
Ben c'est le sud, hein, c'est le vent régnant. Les alizés. Voilà les fameuses pneumatophores qui permettent à la vicenia de respirer.
Et ce sont des racines qui sortent du sol pour aller chercher l'air quand il y a de l'eau.
C'est tout à fait ça. C'est pour ça que ce palétuvier-là, il vit dans la zone de marnage. À un moment donné, il lui faut un peu d'eau, mais aussi il lui faut du sec pour pouvoir respirer avec ses racines.
Et c'est ça qui fait le cœur du cœur de veau.
Voilà, c'est le palétuvier qui constitue l'intérieur du cœur de veau parce que le cœur de veau, sur le plan relief, est légèrement surélevé. Comme ce palétuvier a besoin d'un moment donné d'être à sec pour respirer, c'est pour ça qu'il se situe sur le cœur. À l'extérieur, nous avons le plus grand palétuvier qu'on appelle le rhizophora, mais lui qui a besoin beaucoup plus d'humidité, d'eau pour pouvoir évoluer. Et lorsque le rhizophora arrive en abord du cœur, il ne peut plus pousser, il n'a plus assez d'eau. C'est une zone tampon naturelle, elle n'est pas dessinée par l'informatique. C'est l'œuvre de Madame Nature. La nature est très bien faite. Et puis le cœur de veau, c'est un message que la nature nous transmet malgré qu'on n'a pas été toujours gentil avec elle.
Jacques Loquet, si on se promène un petit peu, là on voit des trous. Des trous recouverts de petites boules d'ailleurs. Et ça, c'est la cage des crabes violonistes.
Oui, tout à fait. Les crabes violonistes en marée descendante vont se cacher, vont se réfugier sous terre et vont boucher leur galerie avec ces boules que vous voyez là, c'est-à-dire qu'ils sont protégés. Et lorsque la marée va remonter, ils vont ressortir. Par contre, vous avez un peu plus loin là, le crabe qu'on pêche pour la consommation. Et il faut savoir que la région de Veau est un très gros producteur de crabes. On pêche à peu près 100 tonnes de crabes par an. C'est-à-dire que la mangrove joue un rôle important sur un plan économique pour les populations vivant là sur le bord de mer, particulièrement les Méanésiens, mais aussi les Européens.
Là, on ne peut pas les voir, les crabes, parce que c'est à marée basse.
Mais non, on peut les voir, mais il faut aller les pêcher dans le trou, dans la boue. C'est toute une méthode, c'est tout un savoir-faire. Mais on peut aller les chercher, ils sont là, dans la mangrove, ils sont bien cachés. Il faut savoir que ce sont des milieux qui sont très riches en crabes, en poissons. La mangrove est un milieu où les gens viennent puiser régulièrement leur nourriture. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, particulièrement les tribus, vous remarquez, les tribus vivent proche de la mangrove parce que c'est un milieu très riche qui nourrit au fait les gens de crabes, de poissons, de coquillages, de mollusques et ainsi de suite.
Ce sont surtout les femmes qui pêchent le crabe ?
surtout les femmes qui sont pêcheuses de crabes. Les hommes aujourd'hui sont plutôt axés sur la mine et c'est normal. Et alors on est en train de réguler, d'équilibrer les choses comme ça. C'est pour ça que la protection de l'environnement, c'est très important, et particulièrement celle de la mangrove. Parce que demain, on ne sait jamais si la production du nickel ou l'industrie du nickel venait à chuter pour une raison ou pour une autre. On aura toujours notre environnement pour nous nourrir. Et depuis la nuit des temps, c'est l'environnement qui nous a nourris.
Très attaché à votre terre. Comment vous décririez la Nouvelle-Calédonie à des personnes qui n'y ont jamais mis les pieds ?
La Calédonie est un hotspot de la biodiversité, quelque chose de particulier, de formidable. Ici, on n'en a pas toujours pris conscience et j'inviterai les gens à venir visiter notre pays, mais aussi à venir s'installer, travailler avec nous, parce que je crois qu'il y a de la place pour tout le monde et on a besoin d'un apport de l'extérieur pour pouvoir mettre en valeur tout ce que nous avons, mais pour créer notre pays aussi.
Au revoir Jacques et bon courage pour les défis à venir.
Et pareillement pour vous, parce que au fait, vous avez un rôle important dans la démarche de la protection environnementale. La communication, c'est quelque chose d'essentiel. Pouvoir retransmettre des messages à la population, c'est de votre rôle et on vous remercie d'être venu nous rencontrer et de faire passer notre message au territoire et même dans le monde.
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI, nous parlons de l'importance des forêts aujourd'hui, des rôles que peuvent jouer les arbres pour refertiliser les sols et garantir la fraîcheur et la sécurité alimentaire au plus grand nombre. L'ambitieux programme de la Grande Muraille Verte, lancé dans les années 70 mais réellement dynamique depuis quelques années, est un exemple de l'importance que les arbres peuvent avoir dans notre vie quotidienne au Sahel où les conséquences du changement climatique font augmenter les températures et modifie le cycle des pluies. La dégradation des sols est un enjeu capital. Ériger une barrière d'arbres du Sénégal à l'Éthiopie apparaît comme une solution, mais c'est un chantier colossal.
Et tu vas t'arrêter partout, faire des collaborations ?
Faire des collaborations avec différents artistes et utiliser la musique pour mettre de la lumière sur ces histoires individuelles, ces histoires de communauté, l'histoire de la Grande Muraille Verte.
La musique est partout et c'est le meilleur moyen de faire passer le message du plus dur au plus doux. C'est la reine de Saba qui fait son pèlerinage. Pourquoi la Grande Muraille Verte, en fait ?
L'ambition, c'est pharaonique. C'est combattre la désertification. C'est créer des projets solidaires dans les communautés. Ça m'a intriguée.
Ça t'a été inspiré de Sankara ?
L'esprit du projet vient de Thomas Sankara.
Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne.
Ce monsieur a été vraiment visionnaire pour la lutte contre la désertification. Il allait même dans des petites communautés. Il demandait à chaque village d'avoir son bosquet. Si tu peux amplifier ce message de Thomas Sankara, amener nos gens à comprendre que c'est eux qui ont le pouvoir, c'est entre leurs mains et souvent sous leurs pieds.
Bonjour Ina Bankoum.
Bonjour.
Vous êtes chanteuse, comédienne, c'est vous que l'on entendait dans cet extrait du film The Great Green Wall. Donc on vous entend parler Grande Muraille Verte, on vous entend faire référence à Thomas Sankara. En fait, vous êtes ambassadrice de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification depuis 2019. Et donc ce documentaire The Great Green Wall, c'est un voyage musico-écologique auprès de ceux qui sont en train d'ériger donc ce couloir végétal du Sénégal à l'Éthiopie. Comment est-ce que ce film est né ?
Alors, j'ai été contactée par les Nations Unies et Fernando Meirelles et Klaus Grunitzky, qui sont des producteurs exécutifs de ce film, et ils m'ont parlé du projet de Great Green Wall qui a été lancé par l'Union africaine en 2007. L'idée était de raconter un peu ce projet, et j'ai tout de suite dit oui, parce que ça me semblait très ambitieux, mais en même temps une réponse à plusieurs problématiques liées au changement climatique.
Oui, parce que la Grande Muraille Verte donc traverse 11 pays, en tout cas c'est l'ambition. Vous êtes allé dans 5 pays, parce que pour de multiples raisons, vous ne pouviez pas aller partout. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en allant à la rencontre des populations qui s'impliquent dans ce projet ?
Alors, la Grande Muraille Verte traverse toute l'Afrique. Elle part de l'Atlantique, de la côte ouest au Sénégal jusqu'à Djibouti. Et l'idée, c'est de planter des millions d'arbres et de restaurer les terres dégradées sur 8000 kilomètres. Et moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est les gens, les populations. J'avais vraiment envie que ce film soit une plateforme qui mette en lumière leurs histoires, leur résilience, leur force et en même temps les défis auxquels ils doivent faire face tous les jours. C'est grâce à eux que j'ai eu confiance dans ce projet. Parce que sans les gens, ça reste un projet d'agriculture ambitieux, mais juste un projet d'agriculture. Mais les gens en font un mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Et aussi de comprendre encore mieux toutes les ramifications qu'il y a autour du changement climatique et les différentes problématiques qui découlent du changement climatique, comme la migration forcée, comme les problèmes d'éducation. Parce que si les populations ne peuvent pas rester suffisamment longtemps dans un endroit, c'est très difficile d'éduquer les enfants à l'école. Et puis, tous les conflits qu'on peut voir dans le Sahel, etc., sont fortement liés au changement climatique. Donc, c'était important que dans ce film, on puisse voir ça.
Alors, quand vous parlez de migration, il faut peut-être expliquer aux auditeurs, hein, parce que vous êtes allé sur le terrain, vous avez compris tous ces liens, mais quels sont les liens entre le fait de planter des arbres et lutter contre la migration ?
Ben, en fait, on plante des arbres, on restaure des terres dégradées pour que les gens puissent vivre là où ils sont. Parce que 80% des gens vivent d'une forme ou d'une autre d'agriculture dans ces régions-là. Et s'ils ne sont plus en mesure de faire l'agriculture parce que plus rien ne pousse dans ces régions, ils sont forcés de migrer vers les grandes villes de leur pays ou vers l'Europe. Et donc, quand je parle de migration forcée, je parle des gens qui ne peuvent plus vivre parce que les températures sont tellement hautes et ils sont en train de survivre et il y en a qui n'y arrivent même plus. Donc, quand on les voit arriver en Europe, on les appelle les migrants. Pour moi, ce sont des réfugiés climatiques parce qu'ils partent de chez eux parce qu'ils ne peuvent plus y vivre parce que les températures montent trop haut. Et dans le film, on peut voir le parcours de certains d'entre eux. Et puis, quand on les voit arriver en Europe, on se demande un peu comment est-ce qu'ils sont arrivés là, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là à monter sur des bateaux de fortune, essayer d'arriver par la Libye en Italie ou en Espagne, etc. Et j'espère qu'avec ce film, on comprendra un petit peu mieux d'où ça vient et le pourquoi du fait qu'ils doivent s'échapper de leur environnement.
Alors vous êtes malienne. En fait, on parle dans le film de plein d'enjeux. On parle aussi des conflits, hein, et on voit que la rareté des terres utilisables et des sources d'eau sont à l'origine de tensions, beaucoup entre les agriculteurs, les éleveurs, des tensions qui s'intensifient en raison du changement climatique, des tensions que l'on observe aussi au Mali.
Entre ça et le fait que certains endroits comme le lac Tchad, en 50 ans, le lac Tchad s'est réduit de 90%. Des millions de personnes utilisaient le lac Tchad pour pêcher, pour faire de l'agriculture, etc. Et on voit que dans ces régions-là, il y a des groupes armés qui utilisent la vulnérabilité de la région pour terroriser les populations, comme on peut voir dans le documentaire avec Boko Haram au Nigeria, d'anciens combattants de Boko Haram, de jeunes femmes orphelines ou de jeunes femmes qui ont été kidnappées. Et en fait, ça fragilise ces régions-là et on voit les conflits émerger, pas seulement entre les agriculteurs et les pasteurs, mais aussi des groupes armés.
Alors, il y a déjà 33 millions de personnes qui sont actuellement considérée en insécurité alimentaire. On sait que la population du Sahel a une forte croissance démographique. Elle devrait passer de 150 millions d'habitants aujourd'hui à plus de 350 millions d'ici 2050. C'est pour ça qu'il est urgent d'ériger cette grande muraille verte pour essayer de refertiliser les sols grâce au rôle important des arbres. Les terres qui étaient dégradées redeviennent fertiles et ça peut permettre aux populations de mieux vivre, de pouvoir s'alimenter à nouveau.
Oui, absolument. Et puis, on n'est pas en train de parler seulement de l'avenir, on parle du présent aussi, parce qu'aujourd'hui, plus de 50% des gens dans le Sahel ont moins de 25 ans. Et l'idée, c'est de pouvoir donner des opportunités aux jeunes. Et la Grande Muraille Verte ne sert pas juste à restaurer les terres dégradées, mais des opportunités aussi de boulot pour les jeunes, parce que dans les communautés, les projets qui existent, ce n'est pas juste planter des arbres. Planter des arbres, c'est ce qu'on pense quand on pense à la Grande Muraille Verte. Mais entre le projet d'origine et aujourd'hui, ça a beaucoup changé entre les recherches qui ont été faites et les nouvelles technologies. L'idée est vraiment de créer dans le Sahel un mur d'arbres qui soit aussi des opportunités de rendre la région des partenaires commerciaux, parce que les arbres qui sont plantés portent des fruits qui sont utilisés, par exemple, pour créer le beurre de karité que l'industrie de cosmétiques dans le monde entier utilise, pour créer la gomme arabique qui est utilisée dans les sodas. Et donc, vraiment rendre la zone pas juste planter des arbres, mais une zone vivante et vibrante pour que les jeunes puissent y rester et arrêter de survivre, mais pouvoir vraiment s'épanouir.
Qu'est-ce que vous attendez de la projection de ce film, The Great Green Wall ? Est-ce que vous espérez une sensibilisation massive des populations ?
Moi, je pense que The Great Green Wall, le projet en général, est bénéfique pour l'Afrique, mais aussi pour le reste du monde. Parce qu'à la fin, quand il y aura ces 8000 km d'arbres plantés, des millions d'hectares de forêt, ce sera quelque chose qui sera bénéfique pour la planète. Donc, ce que j'attends de ce film, c'est en partie qu'il montre un peu le travail qui est en train d'être fait, qu'il inspire aussi d'autres populations qui font face au changement climatique pour créer un vrai changement. Ça fait 3 ans et demi que je travaille sur ce projet, mais après que le film soit sorti, je continuerai à travailler sur le terrain et à continuer à promouvoir le projet pour que les gens s'en emparent. Et j'ai envie que The Great Green Wall sorte des bureaux et de l'administration et devienne vraiment un projet des gens, parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir rester un mouvement et durer dans le temps.
Merci beaucoup, Ina Bonkoum.
Merci infiniment, Anne-Cécile. C'était un plaisir de discuter avec vous. I used to walk 100 miles to get water for my people. Used to
walk 100 miles to get water, to get water. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, bien sûr, pour votre fidélité. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Vous y découvrirez de nombreux bonus en vidéo et vous pouvez nous réécouter en podcast sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure. Water.